Souleymane Bachir Diagne, bonjour.
Bonjour Sylvie.
Je voudrais d'abord que l'on s'attarde sur le titre de votre livre. Pourquoi l'avoir intitulé « Le fagot de ma mémoire » ?
Alors, je vais d'abord vous confier que ce titre, je l'ai vraiment trouvé au dernier moment. Jusqu'à probablement 2 semaines avant que j'envoie le manuscrit définitif à mon éditeur, ce texte était supposé s'appeler « Mes mots ». Je n'en étais pas totalement satisfait. Et je ne sais pas comment m'est revenue cette phrase du poète et conteur sénégalais Birago Diop. Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Et je me suis dit que c'était le meilleur titre que je pourrais trouver, parce que, comme mes lecteurs s'en sont rendus compte, évidemment, je ne suis pas exhaustif, disons, ce ne sont pas vraiment des mémoires dans ce sens-là. Ce n'est pas non plus une autobiographie où j'essaierai d'être le plus complet possible. J'essaye de prendre ici ou là des éléments qui définissent le parcours qui a été le mien et qui expliquent également le travail que je mène en philosophie. Donc c'était vraiment prendre ici ou là des brindilles, du bois sec pour composer un fagot. Et voilà comment le titre de Birago Diop m'est venu à l'esprit pour être le titre de mon livre.
Alors effectivement, on suit plusieurs étapes de votre parcours, comme vous le disiez, et on note dès le début de votre livre l'importance que représente pour vous le fait d'être Saint-Louisien, d'être un enfant de Saint-Louis, une part essentielle de mon identité, dites-vous. Alors que vous y êtes né, mais que vous n'avez pas grandi à Saint-Louis, quelle est donc cette identité qui vous est si chère?
Alors, cette identité saint-louisienne, elle est réelle. Saint-Louisien, c'est vraiment toute une culture. C'est même une certaine manière de parler le Wolof qui distingue les Saint-Louisiens. Il y a des mots Wolof pour un certain nombre de choses, par exemple le nom pour un chat, pour vous donner simplement un exemple rapidement. C'est une marque du Saint-Louisien. Et cette culture est réelle chez tous ceux qui sont non seulement nés à Saint-Louis, mais même étant de culture saint-louisienne, sont nés ailleurs. Je vous donne un exemple. Le grand Saint-Louisien qui était Lamine Gueye, évidemment l'un des premiers grands politiciens du Sénégal, Lamine Gueye était vraiment profondément Saint-Louisien dans sa culture et dans sa démarche, et il n'était pas né physiquement à Saint-Louis. Pour caractériser cela, j'utiliserai le mot de métis. Au fond, c'est une ville métisse. D'abord, le métissage est déjà dans la fabrique même de cette ville. C'était un comptoir français à côté du village indigène et les deux ont grandi ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Saint-Louis était une des 4 communes de plein exercice sous la colonisation. Les habitants de Saint-Louis étaient citoyens français. Parce que le mélange était tel que essayer de faire la part des choses, dès qui était français, qui ne l'était pas, si le fils d'un français ne l'était pas. Bref, les habitants de Saint-Louis n'étaient pas sujets coloniaux, mais des citoyens français. Donc, il y a le phénomène déjà biologique du métissage. Mais au-delà du phénomène biologique, qui est après tout accidentel, ce qui est plus important, c'est vraiment cette culture du métissage. Vous savez, Senghor a écrit une phrase très juste quand il dit « chacun doit être métisse à sa façon ». Alors quand on déplace la question du métissage du simple fait biologique à une disposition morale finalement, une disposition éthique, parce que quand on dit « doit être métisse », c'est un devoir éthique et c'est un devoir de savoir se décentrer et de savoir s'ouvrir. Voilà ce qui, me semble-t-il, caractérise vraiment la culture saint-louisienne.
Donc métissage, ouverture et donc tolérance aussi.
Et oui, et tolérance aussi, parce que la signification que je donne pour ma part à la notion de tolérance, c'est le pluralisme accepté. Voilà, parce que dire simplement on est tolérant, c'est-à-dire que je tolère que quelqu'un soit différent de moi, même si je n'en pense pas moins, c'est déjà bien parce que ça évite de se taper dessus, ça élimine la violence. Mais la vraie tolérance, c'est de comprendre qu'il est bon que le monde soit pluriel, que l'état du monde, c'est d'être pluriel, qu'il y a des voies multiples, si on parle de tolérance religieuse par exemple, pour accéder à la vérité de la religion, et surtout accepter qu'il est bien qu'il en soit ainsi. Parce qu'à ce moment-là, on donne sa signification la plus élevée à la notion de tolérance, une signification d'abord de respect, et la raison de ce respect, c'est qu'on a l'impression qu'on a toujours à apprendre de l'autre, à apprendre de sa différence, y compris pour soi-même. Le plus court chemin pour me connaître, le plus court chemin de moi-même à moi-même, c'est peut-être le chemin qui passe par l'autre.
Donc il y a la tradition saint-louisienne et c'est aussi la tradition familiale. C'est tout ça qui a fait que vous avez été éduqué dans l'idée d'un islam rationnel, soufi.
Oui, tout à fait, parce que c'était également une ville de grande culture islamique, c'est-à-dire c'était pas simplement des madrasas où on récitait le Coran, il y avait véritablement des maîtres tout à fait célèbres, non seulement à Saint-Louis mais dans toute la sous-région, auprès de qui beaucoup d'érudits venaient s'instruire. Et ils ont traditionnellement enseigné cet islam soufi, mais également un islam tout à fait rationnel. C'est ainsi que, tout naturellement, si vous voulez, que j'ai été élevé dans cette idée d'une religion rationnelle qui est d'abord et avant tout une tradition intellectuelle et spirituelle. S'intéresser, par exemple, aux interprétations les plus rationnelles, voire rationalistes du Coran. S'intéresser à la tradition philosophique dans le monde de l'islam. Parce qu'il faut le savoir, il y a une importance très grande de la réflexion philosophique lorsque le monde de l'islam a accueilli en son sein la philosophie grecque. D'abord, il y a eu évidemment, on peut s'en douter, une sorte d'opposition en se disant, enfin, ces Grecs qui parlent d'amour de la sagesse, quelle sagesse peuvent-ils bien avoir s'ils n'ont pas la vraie religion alors que nous l'avons, etc. Mais ce moment d'hésitation a été surmonté assez rapidement et il s'est développé des traductions importantes de philosophie grecque et ça a donné une tradition intellectuelle très riche. Et donc j'ai eu la chance, moi, d'avoir été élevé dans cette tradition-là pour laquelle philosopher, comme partout ailleurs, c'est faire un bon usage du scepticisme, c'est-à-dire savoir douter, savoir interpréter, savoir chercher, savoir questionner et accepter surtout que l'autre puisse aussi avoir raison, donc savoir accueillir la différence d'opinion.
Savoir douter, accueillir les différences d'opinion. On assiste à des phénomènes d'obscurantisme ces derniers temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète?
Ce moment d'obscurantisme dans lequel nous vivons est d'autant plus inquiétant que l'obscurantisme va malheureusement de pair aussi avec la violence. Mais je demeure optimiste parce qu'à côté de cette phase obscurantiste, de la violence, du fanatisme que l'obscurantisme peut produire, on voit également qu'il y a une vraie réflexion, et depuis longtemps, sur la réouverture de la capacité d'interprétation qui a fait pendant très longtemps la force de cette religion et la beauté de cette religion. Et aujourd'hui, c'est peut-être parce que je vis dans ces cercles-là, mais je vois bien tout ce qui se produit, tout ce qui se pense dans le cadre d'un islam rationnel, d'un islam ouvert, d'un islam réconcilié avec les temps qui changent, parce qu'un islam qui est capable de se reconnecter à son propre principe de mouvement et à sortir de cette pétrification, si vous voulez, dans laquelle elle est entrée depuis plusieurs siècles, qui a fait que la discipline dominante est devenue la discipline du droit, et le droit le plus ancien. Les spécialistes du droit qui n'ont que le mot de charia à la bouche, comme si la charia était un texte constitué une fois pour toutes et clair pour tout le monde, alors que c'est un texte pluriel, il y a plusieurs charia. Mais c'est un signe des temps, si vous voulez, que la notion de droit soit aussi dominante et non pas la notion de théologie, de philosophie, de réflexion rationnelle ou d'interprétation soufie. Et il y a une force spirituelle dans le soufisme qui, à mon avis, va gagner la partie. Ça, c'est mon optimisme.
Et c'était pour vous apporter une pierre à l'édifice de créer, alors je sais avec d'autres confrères, hein, mais à l'université Antadiop de Dakar, ce cours de philosophie islamique que vous enseignez désormais à Columbia University à New York, mais qui a commencé à Dakar.
Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, la période où nous vivons, nous avons parlé de l'obscurantisme qui est si présent malheureusement dans nos vies, de la violence qui est si présente également dans nos vies, d'une géopolitique de l'islamisme. Cela imposait, à mon sens, aux intellectuels qui se trouvent aussi être des musulmans de se mettre à parler de leur propre religion. Cela ne me serait pas venu à l'esprit. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré au Sénégal pour être un spécialiste de philosophie des sciences, de philosophie des maths et de la logique, ce que j'ai fait. Mais j'avais le sentiment qu'étant donné ce qui se passait dans le monde et qu'on ne pouvait pas manquer de voir, je voyais bien toute l'effervescence autour de l'islam sur les campus universitaires eux-mêmes. Donc la religion s'invitait dans les campus universitaires, cela imposait aux universitaires de parler eux aussi de la religion. Et donc j'ai considéré que c'était effectivement ma responsabilité de m'exprimer aussi en tant qu'intellectuel musulman, parce que c'était les circonstances qui l'imposaient.
Merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne.
Je vous remercie infiniment.